Vous écoutez France Culture.
Pura vida. Vida y muerte de William Walker.
Pura vida. Vie et mort de William Walker.
De Patrick Deville.
Adaptation Arnaud Bertina.
Dixième et dernier épisode.
William Walker, fusillé sur une plage du Honduras en 1860. Sandino, assassiné en 1934. Ernesto Guevara, fusillé en 1967 dans un village des montagnes boliviennes. Autant d'échecs splendides et pathétiques qui lancent le narrateur sur la piste de fantômes et d'amour perdu.
Un siècle après la dernière tentative pitoyable du général Narciso López pour envahir l'île, le débarquement de la baie des Cochons en 1961 est un échec total au bout de quelques heures. Et les agresseurs sont encore une fois rejetés à la mer. La déconvenue est énorme pour la CIA de John Edgar Hoover et pour le président Kennedy. L'agent double, Alfonso Manuel Herre, doit disparaître, bien entendu, grillé, cramé. Alors dans les mois qui suivent, la trace du Che.50 se perd dans les sables du Costa Rica. L'écrivain argentin Sergio Cherfec.
À quoi pense-t-on alors d'avoir tant risqué pour si peu gagner? Toutes ses activités depuis 25 ans lui auront rapporté moins qu'un seul braquage réussi. On est souvent pingre avec les agents qu'on abandonne. Peut-être a-t-il de quoi louer une petite maison commode et discrète au bord de l'Atlantique ou du Pacifique. On imagine l'une de ces petites maisons blanches entre les bananeraies sur la côte, vers Caweta, dans lesquelles des retraités du Wisconsin essaient chaque jour de se persuader d'avoir enfin réalisé leur rêve. Baignade le matin au soleil, apéritif et langouste pour le barbecue du soir, et entre les deux, le désarroi de la vieillesse qui progresse, la lecture de quelques magazines et les feuilletons télévisés. Chemisette à fleurs et short, lunettes noires, celui-là est assis dans un fauteuil en rotin sur la plage. Il observe le mouvement incessant des vagues et son propre passé tumultueux, et sourit à l'évocation des derniers jours du Libertador de Caracas, celui qui trahit la révolution, laboure lui aussi la mer. On est au milieu de sa vie, dans le meilleur des cas, mais on sait bien qu'elle est finie déjà. Des femmes, peut-être encore, mais que le temps passant, il faut bien finir par payer. Alors l'homme s'assoit devant une vieille machine à écrire et glisse une feuille dans le chariot. Il regarde la mer que découpent les lames d'un store. Il écrit ses souvenirs, en essayant de changer le cours de l'histoire, de réhabiliter sa mémoire. Les agents doubles, pour se disculper, se prétendent souvent agents triples. Il intitule le manuscrit « L'histoire a changé dans la Sierra ». Essaie de s'y peindre en héros, il glisse des remarques antisémites parce qu'on ne se refait pas. Il imprimera quelques exemplaires à compte d'auteur. Il se resserre un verre, regarde la mer. Pendant ce temps, le Che meurt dans la jungle bolivienne à 39 ans. Lui, au contraire, dépassera nettement l'espérance de vie moyenne en ces régions de la vie. Et l'autre Che meurt dans son lit d'un cancer de la prostate, à San José du Costa Rica, en 1994.
J'avais 10 ou 12 ans quand il est mort.
En 1994 ? 10 ans ?
Ah non, en 67. Je parle de Che Guevara, le vrai.
Ah.
Et je me souviens que j'habitais le corps d'un enfant de 10 ans. J'avais vu à la télévision des images de Bolivie et un cadavre sur un lavoir qui était celui du héros mort.
Le Che est capturé en 67. Et toi, en 68, tu faisais quoi?
En France, c'est mai 68. Et mon père, gaulliste depuis toujours, défile à l'appel de Malraux pour défendre De Gaulle. Tu connais cette photo Malraux et Debray qui semblent hors d'eux, presque ivres, penchés sur la tombe du soldat inconnu? À l'époque, je lui en avais voulu.
Les remords des fils.
Quand il a découvert l'île Domingo, Christophe Colomb l'a baptisé du prénom de son père. Eh ben moi aussi, j'aimerais découvrir un archipel et lui donner le prénom de mon père. Ça aurait de la gueule aujourd'hui.
Oui.
Un an plus tard, le 14 juillet 1969, c'est sur de petits transistors à piles que les Français en vacances écoutaient la grande nouvelle du jour. Non pas la guerre du football déclenchée en Amérique centrale, guerre de pouilleux dont le monde des bien nourris n'avait que faire et que la radio française oubliait peut-être même de mentionner, et pas davantage quelques milliers de kilomètres plus au sud, en Bolivie, l'assassinat ce même jour du paysan Honorato Rojas par un commando de l'armée de libération nationale dans sa ferme qu'il avait obtenue des militaires boliviens pour avoir dénoncé 2 ans plus tôt la guérilla du Che, et pas non plus quelques milliers de kilomètres plus à l'est la guerre que menait Israël et le nombre de MiG égyptiens abattus, ni même les incendies que les troupes du Nord allumaient dans Saïgon, et pas même l'étape du Tour de France cycliste qui s'approchait de Paris, ni le défilé militaire sur les Champs-Élysées, ni la préparation des petits bals populaires sous les fanions tricolores dans tous les villages français, les robes légères et la musique des accordéons. Mais les préparatifs du lancement d'Apollo 11 et les premiers pas attendus d'un homme sur la Lune. La voix lointaine en anglais et le commentaire tout proche en traduction, nos yeux fixés sur le transistor au lieu de la Lune au dehors pour vérifier si les bons des bibindomes qu'on nous promettait feraient trembler l'astre Sélène.
Mais toi, dans tout ça, raconte-moi.
Le petit pêcheur à la ligne, dont je possède encore les muscles et les tendons, la mémoire et les illusions, tout étonné d'être ici, t'observe aujourd'hui. Comme il observe les clients du café de la rue Los Dolores, chacun d'eux irremplaçable, ceint de l'auréole d'un monde unique et génial de solitude, et qu'il aimerait aller serrer dans ses bras s'il ne craignait de voir jaillir sous l'effet de la surprise quelques couteaux, et de devoir être aussitôt confronté au système psychiatrique hondurien. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, qui as toujours un temps d'avance sur moi ce soir? J'ai l'air d'un fou, non?
No vas a morir mañana.
Sur la marche en ciment qui relie le café au trottoir, 2 enfants des rues ne chassent pas les mouches sur leur crâne rasé. Un téléviseur scellé dans l'angle supérieur d'un mur diffuse les images d'un match de football. De la cuisine serpente, avec lenteur, le patron et ses odeurs de friture apprivoisées. Victor penserait sans doute que le café de la rue des Douleurs, aussi bien que la cantine des pêcheurs de Puerto Libertad, est un bel endroit pour écrire une lettre d'amour à une femme disparue, l'une de ces lettres que j'avais aperçue ce soir-là, en juillet dernier, toute gondolée d'avoir dû éponger tant d'alcool ou de larmes. Illisible, éparpillée sur la table du café, et dont certaines jonchaient le sol carrelé.
Je t'écris ce soir, comme chaque soir, mon amour, de Puerto Libertad, misérable village de pêcheurs analphabètes, éloignés de tout, rassemblés sur ce point désolé de la côte du Pacifique par le miracle d'un môle vétuste et d'une grue à moteur diesel qui, chaque matin, descend à l'eau leurs embarcations pour les hisser à nouveau à sec en début d'après-midi. La Libertad, mon amour, où depuis 2 ans j'attends que ta silhouette floue à contre-jour, toute baignée de soleil, vienne se détacher du rectangle enflammé de la porte de la Cantina de los Pescadores. Rayonnante et perdue, tu me chercherais du regard dans la pénombre et la fumée, me verrais enfin, et tu viendrais t'asseoir à cette table, là, devant moi, sans rien dire, en souriant tristement dans cette odeur de poisson mort. Et nous resterions ainsi, muets, immobiles, comme 2 torchères d'orgueil sur les 2 rives d'un fleuve, à nous consumer d'amour. Je n'aurais pas l'audace d'avancer ma main, de poser le bout de mes doigts sur ta joue. Où es-tu aujourd'hui? Sans savoir dans quelle région du monde je t'attends, me cherches-tu? As-tu engagé un détective? La probabilité n'est pas nulle. Et un jour, un soir, à 7 heures de préférence, où le grand soleil rouge descend juste sous l'auvent et s'inscrit dans le rectangle de la porte ouverte, emplit la pièce de cuivre liquide et fait briller les citrons coupés dans leurs assiettes de faïence blanche alignées sur le comptoir. Tu viendras t'asseoir sans rien dire, comme une sainte miséricordieuse dans la gargote des pauvres pêcheurs. Chaque après-midi, je remonte jusqu'au môle, marche les pieds nus sur les planches chaudes, longe les barques où traînent des restes de poissons que se disputent les chats, corvinas ou encore nez desséchés collés au bois et la peinture, dernière écaille scintillant au dernier soleil rouge, devant le quai où parfois vient accoster le caboteur d'Akahutla. Je cherche des phrases pour t'écrire, mon amour. Debout devant la grue dont le moteur jaune caterpillar est entravé par une chaîne rouillée que ferme un cadenas. Puis je reviens vers la cantine des pêcheurs et reprends ma place. Écris cette lettre que plus tard je vois glisser au sol ou que je range dans ma mallette. Je cherche quelque chose à te raconter, un détail pour te faire sourire. Et je voulais te dire ceci aujourd'hui, mon amour. J'aime cette habitude salvadorienne de chercher une signification au chant des oiseaux et de leur donner ce nom. Les salvadoriens de la Libertà essaient d'entendre une phrase en espagnol dans la mélodie des oiseaux et les appellent ainsi. Et si je n'ai aucune sympathie pour le Cristo Fue et son prêche rabâché, j'aime entendre le Dicho Sofui, cet oiseau qui répète à longueur de journée qu'il fut heureux et qu'il ne l'est plus. Je me sens moins seul.
Voilà, quelque chose se terminerait ici et je pourrais quitter Tegucigalpa. L'idée m'est venue en contemplant le plafond de la chambre de l'hôtel Eastmania vers 4 heures à mon réveil. Il suffirait d'arrêter un taxi à l'improviste, à la sortie de n'importe quelle pulqueria, de traverser comme à Yaguela par cette route sur laquelle les Indiens sont venus détruire la statue de Christophe Colomb il y a quelques années pour l'anniversaire de ce qu'ils ne considèrent pas comme une découverte de l'Amérique, et à l'aéroport glisser mon passe sur le comptoir de la compagnie Grupo Taka.
Pour quelle destination, monsieur ?
Et quelques minutes plus tard, on survole la réalité, comme on survole un journal. Défilent tout en bas les volcans, les petits nuages, les vallées isolées au fond desquelles survivent en grattant la terre sèche des paysans à un jour de cheval du premier village, où stationnent aujourd'hui face à face les armées du Salvador et du Honduras dans leur bric-à-brac de campagne en attendant de réintégrer leurs casernes. On prend un autre taxi à la sortie de l'aéroport. On prononce le nom d'un établissement connu et facilement localisable, en plein centre, le Grand Hôtel Costa Rica à San José ou l'Inter à Managua. On boit là quelque chose de frais dans un bar climatisé, puis on s'en va marcher dans les rues.
Pour quelle destination, monsieur ? Pour quelle destination, monsieur ?
Belize. Belize, mademoiselle. Ce pass, angélique viatique, permet de voler du Panama au sud jusqu'au Belize, au nord, ce curieux mélange anglophone de Ceylan et de Jamaïque perdu en Amérique centrale, de Chinois et de Noirs Garifunas, pour aller prendre des notes au Marvin's Bar sur la Belize River, observer les pélicans assoupis sur le toit des baraques à pilotis peintes avec les couleurs vives et inaltérables des bateaux, émeraudes et citrons, rouge sang et bleu marine. De ces terrasses, on peut suivre tout l'après-midi les activités commerciales énigmatiques des Rastas en dreadlocks et haillons militaires qui convoient sur leurs longues embarcations d'aluminium à moteur hors-bord et proue effilée des caisses de bière Pelikin ou du matériel électronique vers la minuscule et mystérieuse capitale de Belmopan perdue au cœur de la jungle. On peut aussi prendre à Belize City une avionnette ou un bateau-taxi pour Calle Colker ou San Pedro, frontière offshore du Mexique, au sud du Yucatan, et voir passer là, dans le chenal, au milieu de la barrière de corail, le dernier bateau de William Walker, en 1860, cap sur le désastre et les îles de la baie. Mademoiselle ?
Monsieur ?
Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous ressemblez à Inès Schroederer?
Si c'est pour me séduire, merci de prendre quelqu'un de plus connu.
Non, mais c'est pas une star. Attendez, je vais vous la trouver.
Monsieur, vous ne pouvez pas rester là. Prenez votre valise. Madame, votre passeport, s'il vous plaît.
Oui, tenez, voilà.
Est-ce que vous voyagez seule?
Oui.
Tenez, regardez. Oh. Pardon, madame. Vous voyez?
Qui est-ce?
Inès Consuelo Schroederer, je vous l'ai dit.
Je veux dire, qu'a-t-elle fait pour avoir sa photo dans le journal?
Dans El Heraldo, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Honduras, Edgardo Paz Barnica, revient aujourd'hui, vendredi 28 février 1997, sur l'arrestation par la dictature de la señorita Inés Consuelo Murillo Schroederer, en 1983. Sur une grande photographie en noir et blanc, le visage d'Inés Consuelo est pris de trois quarts, légèrement en plongée. C'est une grande femme brune de 24 ans, dont la mèche gauche est glissée derrière l'oreille, comme font les belles étudiantes lorsqu'elles se penchent sur un livre, qui est arrêtée le 13 mars 1983 par des hommes en civil. Étudiante en droit, elle milite au sein d'un groupe clandestin et voyage en compagnie d'un salvadorien du Front Farabundo Martí de Libération Nationale. Elle sera détenue secrètement par l'armée pendant 80 jours.
Depuis mon arrestation, j'avais été l'objet d'abus sexuels et soumise à des tortures psychologiques et physiques. Quelques jours avant d'être présentée à la presse, j'ai commencé à recevoir de la nourriture en quantité suffisante. On m'a aussi donné des médicaments. Mes blessures ont été soignées avant que je sois transférée dans une prison de femmes. Quelques minutes avant la conférence de presse, on m'a donné de vieux vêtements. Je n'avais conservé que mes chaussures. J'étais restée nue pendant les 80 jours. Je ne savais rien des pressions internationales pour obtenir ma libération. Grâce à la nationalité allemande de ma mère, j'ai été l'une des plus chanceuses.
La mère d'Inés Consuelo, née chilienne d'origine allemande, travaillait alors pour l'ONU. Dès la disparition de sa fille, le père d'Inés avait remué ciel et terre. Mais ça n'avait pas impressionné le général Álvarez Martínez, chef des forces armées et maître véritable du pays, tortionnaire formé par l'Académie militaire de Buenos Aires à l'époque de l'opération Condor et membre de la secte Moon. Une campagne internationale s'était développée grâce à l'ambassade de RFA qui reconnaissait la nationalité allemande d'Inès. Que le chancelier allemand ne se mêle pas de ça. Le président de la République réunit alors un conseil de sécurité et exige des explications du général Álvarez Martínez, lequel déclare « Cette subversive sera mise à la disposition des tribunaux dans les prochains jours ». Un an plus tard, le 4 juillet 1984, Inés Consuelo quittera le Honduras pour l'Allemagne.
J'ai été une des plus chanceuses, c'est évident. Regardez en Argentine. Les collègues tortionnaires du général Álvarez Martínez avaient les coups des plus franches qu'au Honduras. Je connais bien, par exemple, le cas de Maria Neris. C'était un mannequin vedette. Elle était passée de la couverture des magazines à la lutte révolutionnaire clandestine. Eh bien, son passeport français ne l'avait pas empêchée de disparaître, elle aussi, à 24 ans, dans le centre de torture de La Marquesita. Sans cette double nationalité, c'était une balle dans la nuque et le charnier.
Parfois, justice est faite. Le général Álvarez Martínez fut exécuté le 25 janvier 1989 par des membres du Movimiento Popular de Liberación Cinchonero. En 1985, Roberto Sosa avait publié ce poème dans son recueil Secreto Militar. Avant le général Gustavo Adolfo Álvarez Martínez, assassin, au visage carré, aux lunettes noires et à la morale de vautour, les pins du Honduras pouvaient encore agiter leurs aiguilles. Pas de taxi aujourd'hui. Je serai ce soir encore à Tegucigalpa, où j'ai rendez-vous justement au Café Paradiso avec Roberto Sosa et Eduardo Baer, ce qui me paraît être un alibi suffisant pour demeurer ici et continuer d'y feuilleter les journaux.
Tu as tout de même dû la laisser un peu dubitative, cette hôtesse de l'aéroport.
Parce qu'enfin, des fous, elle doit en croiser, mais des types qui lui sortent des coupures de presse des années 80, des articles découpés correspondant à chaque événement du présent.
Roberto Sosa avait accepté d'évoquer pour moi Roque Dalton sans me demander d'abord ce que je comptais en faire. Ce n'est qu'une fois la poche à souvenirs vidée qu'il me questionna. Je lui parlais alors de William Walker, du Nicaragua des Sandinistes, du Salvador des Farabundo Martistes et du Honduras des guerres du bois et du football. Je lui parlais d'un roman.
Ah, un roman ? Ben, c'est étrange car tu ne m'as parlé que de faits précis historiques.
Un roman sans fiction.
Je ne connais rien à l'art du roman. Je n'écris que des poèmes. On parlait du Pérou tout à l'heure. Eh bien, nous pourrions inventer ce soir, ensemble, la trame d'un roman qui aurait pour sujet la prise d'otage là en ce moment.
Le commando Tupac Amaru.
Oui, toujours retranché dans la résidence de l'ambassadeur du Japon à Lima. Un roman qu'on intitulerait El Asesinado, l'assassiné.
Je te propose un narrateur pour ce roman. Je l'imagine très ressemblant à ce Victor dont je t'ai parlé, un vieux spectre en imperméable crasseux, coiffé d'une casquette de baseball rouge vif à longue visière. Victor, trait pour trait. Il ne suivrait l'histoire que de loin, à la lecture des journaux. Le livre qu'il écrirait serait un travail purement formel et binaire. Il lirait deux journaux dans deux capitales de deux pays frontaliers, deux vendredis consécutifs. Et il ne saurait plus très bien s'il est assis devant ses feuillets éparpillés au fond du patio du bar Paradiso de Tegucigalpa, ou à la terrasse du snack bar Morocco de Managua, ou encore dans la cantina de los pescadores de la Libertad, aux tables recouvertes de toiles cirées, où tremblotent des bougies et où pendent des guirlandes d'ampoules électriques multicolores sur le ciel rouge au couchant. Près du comptoir, un jukebox égrainerait des boléros, et alors, il la verrait. Il la devinerait chaque soir, dans l'aveuglement du grand flamboiement sur le Pacifique, qui dessinerait un instant sa silhouette floue à contre-jour.
C'était
Pura Vida, Vie et mort de William Walker.
De Patrick Deville.
Adaptation Arnaud Bertinat.
Dixième et dernier épisode.
Avec
Vincent Schmitt.
Le narrateur.
Eric Erson Macarel.
Sergio Cherfec.
Clémentine Saint-Toul.
La femme brune.
Charlie Nelson.
Victor.
Pauline Ziadé.
L'hôtesse de l'air.
Myrène Astray.
La cliente.
Alicia Roda.
Inès Consuelo Murillo.
Hervé Furic.
Roberto Sosa.
Et Manuel Ulloa, Marina Moncade, Paola Cordova. Bruitage.
Bertrand Amiel.
Conseillère littéraire.
Emmanuel Chevrière.
Équipe de réalisation.
Éric Villonfin. Mathieu Tourin. Yaël Mandelbaum. Jean-Mathieu Zand.
Merci à Maria Contreras pour ses traductions et à toute l'équipe pour sa contribution au dialogue. Pura Vida, Vie et mort de William Walker, de Patrick Deville, est publié aux éditions du Seuil.